Dans le cadre des petits champions de la lecture, voici pour le plaisir une série de lectures extraites de livres jeunesse choisis par vos enfants. Bonne écoute!
Bonjour, je m'appelle Naël et je vais vous lire La Porte des Adultes, écrit par Franck Andria. Sylvain est assis sur une grosse pierre à l'entrée l'entrée du jardin de ses parents. Les coudes sur les genoux, les poings serrés contre les joues. Il observe les derniers rayons de soleil qui se faufilent entre les arbres. Que tu as l'air de mauvaise humeur! Sylvain redresse la tête et reconnaît Aline, la fille du boulanger du village, accompagnée de Blacky, son teckel. Je ne peux pas regarder la télévision, c'est un film pour adultes, c'est toujours des films pour adultes. C'est toujours pour quand on sera plus grand. C'est la même chose chez moi, tu sais. On ne cesse de me répéter qu'on m'expliquera que plus tard, que je comprendrai que plus tard, que ce n'est pas de mon âge. Et tu trouves ça juste? Non, mais c'est ainsi. Moi, je voudrais devenir adulte pour tout, pouvoir comprendre tout de suite. Il existe peut-être une solution. Une solution? Explique-toi. Ma grand-mère m'en a parlé un soir de l'hiver passé. Pour ceux qui ne veulent plus rester des enfants, il paraît qu'il existe dans le bois de Châle une porte des adultes. Pour devenir grand, il suffit de la franchir? Ce sont des mensonges. Jamais ma grand-mère m'a menti. Elle a même ajouté qu'il était très dangereux de franchir cette porte. « Aline !» crie une voix au loin. « Ça, c'est mon grand-père. Il a toujours peur quand je m'attarde à la tombée du jour. »« Bonne nuit, Sylvain. Allons, viens, mon vieux Blacky. » Suivi par le regard pensif de Sylvain, la petite fille s'éloigne en sautillant. Le lendemain midi, sur le chemin de retour de l'école, Sylvain prend la route qui longe le bois de Châle. Il n'aime pas beaucoup ce bois, dont l'accès est protégé par mille et une ronces. Cependant, il a souvent voulu y entrer, car il est convaincu que s'il trouve un trésor sans doute dissimulé au pied d'une mystérieuse tour, comme dans les bandes dessinées, cette fois, il se décide et pénètre dans le bois.
Bonjour, je m'appelle Ophélie et je vais vous lire Le Réveillon de la famille. Écrit par Fanny Joly. Noël, peut-être que pour vous, Noël, c'est un joli sapin tout décoré, dans un sol entier dédouillé, avec des petits chaussons bien rembourrés, alignés au rang d'un loup. Dans ce cas-là, attendez de savoir ce qui nous est arrivé à Noël dernier. Et vous verrez que tous les Noëls ne ressemblent pas à ça. Oh là là, loin de là. Je dis nous, mais il vaudrait mieux que je vous dise d'abord qui nous sommes. Nous sommes la famille Théo. Des gens plutôt normaux, normalement. Dans la famille, il y a moi, je m'appelle Bertrand et j'ai 10 ans et 4 mois. Il y a papa qui commence à être vraiment vieux, il a au moins 40 ans et plus il vieillit, plus il a horreur des disputes et du bruit. Il y a maman qui ne veut jamais dire son âge mais qui a horreur des disputes aussi. Et puis on est 4 enfants, mon grand frère s'appelle Thomas. Il a presque 14 ans. C'est vraiment un gars extra. Mon frère moyen s'appelle Victor. Il a presque 12 ans. Et s'il y avait un championnat du monde des trouillards, je crois qu'il gagnerait la médaille d'or. Mais le clou, c'est notre petite sœur. Elle a 8 ans. Je vous en ai peut-être parlé déjà. Excusez-moi, j'en parle beaucoup. C'est que rien ne se passe normalement avec cette fille. Là, elle s'appelle Marie-Ange Théron. Elle a un nom d'ange, mais en fait, c'est un démon.
S'appelle Surcouf, le corsaire de Saint-Malo. Il est écrit par Jean-Jacques Vacher et mon passage, il est à la fin. Le lendemain de leur rencontre avec la Sibylle, les matelots de la Confiance rient encore de la ruse de Surcouf. Parbleu, j'aurais voulu voir la tête de l'Angliche quand il a appris que Robert Surcouf était si près de lui. Ha ha, il a sûrement mangé son chapeau. Encore une fois, le cri de la vigie fait sursauter tout le monde. Un bateau, un très gros! Surcouf rejoint la vigie à son poste. De là-haut, il observe les voiles à l'horizon. Un vaisseau anglais avance droit sur la Confiance. Il est fortement armé, 38 canons. Mais cette fois, pas question de reculer. Sans hésiter, Robert lance à plein poumon: branle-bas de combat! Tous les hommes se réunissent sur le pont. Surcouf les prévient: mes amis, nous ne pouvons pas lutter contre l'anglais à coups de canon. Nous en avons 18, il en a plus du double. Nous allons le prendre à l'abordage. Le vaisseau anglais approche. On peut lire son nom écrit en lettres d'or, le Kent. Quelle forteresse des mers! Il est défendu par plus de 400 hommes, dont 150 soldats armés de baïonnettes. À côté, la Confiance avec ses 150 corsaires a l'air d'être un bateau de pêcheurs. Le capitaine du Kent fait tirer un coup de canon d'avertissement. Surcouf reprend la barre de son navire. Par quatre fois, le Kent envoie une volée de canon. Surcouf manœuvre habilement. L'orage de fer et de feu touche un mât de la Confiance, déchire quelques voiles, c'est tout. Robert réussit à amener son navire contre l'énorme vaisseau anglais. Il jette son gilet à la mer, retrousse les manches de sa chemise, puis il donne le signal de l'attaque. Ses hommes le suivent en rugissant. Il escalade les mâts de la Confiance pour sauter sur le pont du Kent. Le premier à arriver face à l'ennemi est Bambou, fidèle compagnon de Surcouf. Il semble passer entre les balles tirées par les Anglais. Bientôt, tous les Français sont sur le Kent. Partout, on entend des cris de rage ou de douleur. Dans les deux camps, les victimes sont nombreuses. Avec quelques corsaires, Surcouf réussit à repousser ses adversaires à l'arrière du Kent. Épouvantés par autant de volonté, les Anglais vont se réfugier à l'intérieur du bateau. Ils abandonnent la lutte. « Plus de morts, plus de sang, mes amis !» déclare Surcouf. « Le Kent est à nous !» Surcouf et ses hommes ont triomphé en combattant à 1 contre 3. Quelques jours plus tard, la Confiance et le Kent arrivent au port Louis, la capitale de l'île de France. À leur débarquement, les corsaires sont acclamés. Tout le monde veut leur serrer la main et entendre le récit de leur extraordinaire victoire. Louis Garnereil est aux côtés de Surcouf. Il affirme: capitaine, vous rentrez dans la légende!
Bonjour, je m'appelle Valentine. Je vais vous lire Un papa au piqué, écrit par Suzy Morgenstern et édité par l'école de loisirs. Voici mon passage. Depuis quelque temps, mon père devenait bizarre. Il me fixait avec des yeux humides en forme de point d'interrogation. Son visage était tendu. Il avait une expression de douleur telle que s'il avait ouvert la bouche, il m'aurait éclaboussé de son cœur en gouttelettes. Et il ne disait rien. Il avait l'habitude de me lire des histoires fantastiques et drôles. La veille du premier jour de classe, il est resté sur le seuil de ma chambre sans bouger. Il ne m'a rien lu, il n'est pas entré, il ne m'a pas embrassé, il ne m'a pas dit « Bonne nuit, mon Raphaël Mimi ». Il m'a juste regardé avec cette même air de souffrance comme s'il allait mourir dans la nuit. Ou bien lui. « Ça va passer », me suis-je dit, en fermant très fort les yeux sur mon espoir pour demain. Le jour J, maman est partie tôt comme d'habitude. « Travaille bien », m'a-t-elle dit. « Oui, j'entrais dans le monde du travail. » J'étais grand. J'avais beaucoup de courage, mais il y avait mon père qui en avait moins. Il traînait. Il ne pouvait pas se décider à me servir mon petit déjeuner de travailleur d'école. Le lait a débordé, le toast a brûlé, il a versé le jus d'orange à côté de mon verre sur mon pantalon. Il a fallu que je me change. Après, c'est lui qui n'était pas prêt. Il ne savait pas quoi mettre. Enfin, il m'a dit, tu sais, mon Raphaël Mimi, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Déjà, j'avais loupé la maternelle parce qu'il pouvait s'occuper de moi. Mais papa, je veux aller à l'école. Et je ne veux pas être en retard. On aurait dit que je poignardais en plein cœur. Sa peine faisait rétrécir ses joues. Il a soupiré. Bon, on y va. L'école n'était pas loin. J'aurais pu y aller tout seul, mais mon père venait m'accompagner jusqu'au seuil de ce qu'il appelait une journée historique. Je lui ai suggéré, il faudrait peut-être t'habiller, papa. Tu es sûr que tu ne veux pas commencer demain? Je fus dur, papa, je veux commencer par le commencement. Il a mis son jogging pareil que le mien. Il m'a toujours acheté les mêmes habits que lui. Père et fils, disait-il, on est des jumeaux, comme Laurel et Hardy. Quand j'ai enfin réussi à sortir papa de la maison, il avait oublié ses clés de voiture. J'ai déclaré, on y va à pied, bout des fesses.